Tu tournes.
À 33 tours minutes.
Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Manche Disque avec un générique un petit peu foiré pour démarrer cette deuxième émission du mois de septembre, c'est Nico. On attend Julien qui a un petit peu de retard mais qui, je pense, va arriver incessamment sous peu, donc je le disais tout à l'heure. Deuxième émission du mois de septembre pour cette rentrée du Manche Disque, l'émission du disque vinyle, puisque une fois encore, pendant une heure, on va s'écouter des disques vinyles de nos collections, on va en parler aussi sur le 101.5 de Radio G, et on va commencer avec un petit peu de library music. Juste le temps de ce morceau pour faire arriver Julien dans les studios.
Exactement.
Pour, je le disais, cette deuxième émission de la rentrée. et qu'on a démarré avec un groupe qui s'appelle The Cabildos. Alors, on sait très peu de choses hein, sur The Cabildos, si ce n'est que c'est de la librairie italienne, puisque elle est menée, cette formation est menée par Johnny Cabildo, d'où le nom, hein, qui oui, fait keyboard and percussion. Et Derek Wilson, donc, à la batterie. Alors, Johnny Cabildo, on sait que c'est un Italien qui vivait au moment de cette formation en Floride, ce qui explique certainement les influences tropicales que l'on entend, les influences latines que l'on entend dans cette librairie bien atypique. Alors, librairie atypique qui, dont l'original vaut un bras et demi, puisque, comme beaucoup de disques de librairie, ce sont italiennes surtout, ce sont des disques qui ont été réveillés un petit peu en deuxième temps par un intérêt soudain de collectionneurs et d'amateurs spécifiques qui sont allés rechercher, faire la fouille à tous les LP de librairie qui ont pu sortir à une époque où ça s'est beaucoup moins vendu. Donc moins vendu, très recherché, égal, rare et cher. Et donc ce premier album, The Cabildos, il est intouchable en original, à moins de vouloir dépenser une somme folle ou d'avoir beaucoup d'argent. Mais heureusement, lors du précédent Discard Day, eh bien, ça nous a été réédité, cet album de 1979, donc réédité en 2020-2021.
Alors oui, effectivement, moi j'arrive en cours de route, mais j'ai pu apprécier ce morceau, d'autant plus que j'étais un peu suspicieux. Enfin, j'aime beaucoup la librairie italienne, et c'est vrai qu'on en avait parlé. J'étais allé écouter 2-3 trucs, j'ai dû mal écouter ou mal tomber, parce qu'effectivement, j'étais pas si emballé que ça. Et alors que là, ce morceau-là, m'a bien plu.
Alors c'est peut-être parce que c'est le meilleur morceau que j'ai sélectionné pour l'émission. Mais tout le LP est pas mal. Après, effectivement, il faut faire un pas de côté par rapport à ce qu'on va chercher d'habitude dans la librairie italienne, à savoir des sons hyper efficaces, un peu à la Calibro 35, des choses très polar, très cinématographiques. Là, on est plus sur de la musique sympa de Floride, quoi. Cocktail
en main.
Il
faut dire qu'il est sorti en même temps que le Sorghini, dont on vous a passé la face A dans son intégralité.
C'est vrai que là, on est sur autre chose.
C'est difficile de rivaliser.
Voilà. À toi.
Écoute, j'enchaîne quasi sur la même époque, mais alors c'est pas tout à fait pareil, puisqu'on va écouter un morceau de Anthony Moore. Alors qui est Anthony Moore? C'est un londonien qui est né en 1948, membre fondateur de Slap Happy, et qui a surtout mené une carrière dans la musique expérimentale, post-moderne, voire minimale. Il a donc travaillé donc avec Slap Happy, mais il a aussi sorti des albums solo. Et contre toute attente, son quatrième album, qui s'appelle Out, et qui est sorti en 1976, lui est très pop. Il s'entoure plutôt de pas mal de gens de qualité, puisqu'il va recruter Andy Summers, le guitariste de Police, juste avant Police. Kevin Ayers, qu'on connaît pour ses collaborations notamment avec John Cale, Nico, qu'on vous a passé là, il y a 15 jours, vient prêter main forte, et ils vont ensemble donc sortir cet album qui fait vraiment penser à cette espèce de rock hyper travaillé, hyper ciselé, donc des années 70. Là on est en 1976, et je vais vous passer donc un morceau qui s'appelle Lover of Mine, et on est sur une réédition là, de 2020, de Drag City, qui ma foi est tout à fait potable.
Oh,
l'importance de garder les petits hype stickers, comme on dit dans le milieu, les autocollants qui sont sur le plastique, sur le blister, puisque en fait, je vous ai dit des bêtises, l'album n'est pas sorti en 76, il a été composé en 75-76, mais il a été mis à la poubelle par Virgin juste avant sa sortie. Et finalement, il y a eu un CD, je crois me souvenir, sorti par Hypnosis dans les années 90, et la version donc de Drag City rééditée en 2020, c'est la première version vinyle avec l'artwork original. Puisque la version CD, c'était une espèce de truc en langage des signes. Alors que là, on a bien la photo d'époque de Anthony Moore dans un très beau jardin, un peu de nuit vespérale, quoi, tranquille. Voilà, donc gardez bien les petits stickers.
Donc un disque qui a été mis à la poubelle et qui a été ressorti un petit peu sur le tard, alors.
Exactement.
Comme quoi, les maisons de disques, parfois, ont pas le flair, quoi.
Ah non.
Ils ont pas le nez, parce qu'il était très bien aussi, ce petit morceau. Moi, je vais nous ramener en Italie, parce que je sais pas pourquoi, aujourd'hui, il y a des thématiques inconscientes, comme ça, qui sont pas forcément volontaires. On pioche des disques dans nos collections, et puis on fait après des rapprochements. Et donc, on va rester en Italie, mais on va changer complètement de style par rapport à Cabildo. On va changer aussi complètement d'époque, puisque je vais vous passer un morceau de Gesto Funk. Gesto Funk, c'est une formation italienne, justement, qui a eu le mérite de... Alors, de vrai, depuis les années 90, hein, c'est pour ça que pour pas rien vous cacher, moi, je me suis mis à deux fois pour revérifier la date de cet album, que je sais pas pourquoi, dans mon cerveau, il y a eu un bug et je le voyais beaucoup plus ancien que ça, mais l'album, donc Love in a Black Dimension, sorti en 2017 par Gesto Funk, qui a beaucoup travaillé pendant les années 90, notamment en essayant d'allier des thématiques funk avec de la musique moderne de l'époque, donc de la musique électronique, et notamment beaucoup de house. Donc, ça donne un album qui est composé de façon un petit peu particulière, puisque il y a un disque, c'est un double album, donc double LP. Le premier LP s'appelle Gesto Side, et donc on a des sons beaucoup plus house là, beaucoup plus voilà, des choses qui ont plus ou moins bien vieilli avec le temps, mais qui faisaient fureur fin 90, début 2000, voire 2010. Hein. Et puis un deuxième LP qui s'appelle Funk Side, où là on est plus dans le funk, électronisé certes, mais quand même un petit peu plus proche des roots, on va dire, du funk. Bon, je vous cache pas que j'use beaucoup plus le deuxième que le premier, même si le premier je me le réserve pour une soirée dansante ou quelque chose comme ça qui pourrait peut-être partir en house music.
Ça y est, on a le droit.
Et donc je vais vous passer un morceau qui s'appelle Fluid, qui va vous montrer le potentiel funk, mais aussi à mes oreilles jazz funk de cette formation italienne qui a marqué les esprits quand même, parce que dans les morceaux beaucoup plus connus, on a beaucoup de morceaux qui ont été utilisés pour des pubs à l'époque. Hein.
D'accord.
Qu'ils nous sont
familiers, même sans savoir, quoi.
Enfin, exactement, des opérateurs mobiles, des voitures, tout ça, voilà. Enfin, et puis beaucoup de bandes son de reportages aussi de l'époque, hein, dans les émissions de reportages de la Une du dimanche soir. Enfin voilà, toutes les petits, c'était des petits morceaux bien efficaces qui étaient utilisés pas mal par les journalistes quand ils montaient leur doc. Donc oui, c'est un album qui a, je pense, pour eux bien fonctionné, qui a marqué en tout cas l'inconscient collectif d'une certaine génération. Mais là, je vais vous passer un morceau qui n'a pas du tout été utilisé, parce qu'il n'est pas du tout dans le même registre que peut-être les autres, en tout cas, surtout que le premier LP. Il s'appelle Fluid, on s'écoute ça tout de suite. Thank you. De Gesto Funk.
Ça passe bien, ça passe très bien.
Très très cool.
Mais s'il y en a qui piquent éventuellement du nez, parce que ça détend et tout, c'est tranquille.
Oui, là, tu vas nous réveiller tout ça.
Je vais peut-être réveiller les personnes, nos auditeurs ou notre auditeur, en vous passant un morceau toujours des années 70, en repartant de nouveau pour moi en Angleterre en 1979, voire même un tout petit peu plus tôt pour vous raconter la genèse en fait du groupe que je vais passer, puisque je parle de Crass. Crass, c'est un groupe anarcho-punk formé en 1977 et qui avait prévu de se séparer en 1984 dès le début de sa formation. Ils vont donc sortir des morceaux, etc. et avoir des soucis dès le premier album, en fait, puisqu'ils vont être censurés dès le premier album par rapport à leurs paroles très revendicatrices. Donc ils vont d'ailleurs faire un morceau tout blanc qu'ils vont intituler Liberty of Speech, qui dure le temps qu'aurait dû durer le morceau qui ne pouvait pas passer. Et dès qu'ils vont pouvoir, ils vont fonder leur propre label, Crass Records, en 1979, et qui vont leur permettre d'éditer leurs propres disques, les disques des copains et des copines, et également trois compiles qui s'appellent Bullshit Detector 1, 2 et 3. Alors, ces histoires de compiles, c'est assez intéressant, en fait, parce qu'ils demandent aux gens de leur envoyer des cassettes. Il n'y a pas de traitement sonore ni rien, c'est tel quel. Et en fait, ils disent, qu'importe la qualité, vous faites comme vous pouvez, c'est du punk, hein, c'est du do it yourself. L'important, c'est qu'on puisse entendre les paroles, parce que c'est Crass, c'est vraiment un groupe à message qui ferait passer les Sex Pistols et les Clash pour des boys bands, hein, parce que là, on est vraiment dans l'anarchie pure et dure, mais l'anarchie politique, revendicatrice. Leur devise, c'est fight war, not wars, destroy power, not people, anarchie, liberty and peace, ce genre de choses. Et ils sont complètement dans l'autogestion, c'est eux qui pressent tout. D'ailleurs, sur les originaux, les matrices, c'est des slogans. Il n'y a pas de numéro, machin. Enfin, ils sont vraiment de A à Z dans la construction du disque. Et puis, ils vont faire face notamment à de multiples procès, etc. Ça va être très compliqué, hein, de par leurs paroles. Et puis, également, il faut faire mention du graphisme, puisque Crash, c'est aussi des très beaux objets, finalement, parce que c'est des grandes feuilles qui sont repliées, qui sont dépliées, avec dedans, évidemment, les paroles, tout ça, mais aussi...
Ah oui, collage,
un méga poster qui permettait d'égayer les chambres des jeunes anglais militants d'extrême gauche de la fin des années 70.
Je sais pas quel format c'est, mais c'est un gros format.
Ouais, ça se déplie complètement, c'est qu'une seule feuille qui est pliée en fait en plusieurs. Et puis ils faisaient aussi tout pour que leur disque ne soit pas cher. Là par exemple, c'est un double LP, c'est leur premier album, Stations of the Crass, et c'était écrit Pay no more than £3. Donc voilà, ils empêchaient la spéculation et la revente très chère autour de leurs disques.
Est-ce que c'est respecté ça aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'en sais rien. En tout cas, effectivement, dans les rééditions, cette partie-là du disque où il y a écrit ça, ça a disparu.
Ah,
ça a été remplacé par un autre bout de slogan, etc.
Pay more than.
Donc voilà, en fait finalement, je parlais d'autogestion et tout, ça va être très compliqué, je parlais des multiples procès, il va y avoir aussi des divergences artistiques et politiques, hein, dans ce groupe, puisque certains vont vouloir vraiment continuer à être dans l'underground, d'autres vont pencher pour un peu plus d'une audience un peu plus ouverte, etc. Et finalement, le groupe va s'arrêter en 1984, comme il l'avait annoncé au début. Peut-être qu'au début c'était une boutade, mais en tout cas c'est véritablement ce qui s'est passé, comme une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est un groupe très intéressant, là je vais vous passer donc un morceau du premier album, donc qui est bien punky, mais dès le deuxième album qui s'appelle Penis Humvee, le chant et tout, il va y avoir un pas de côté, et ça va être notamment les deux chanteuses du groupe qu'on entend ici sur un ou deux titres, Eve Libertine et Joy de Vivre, qui vont chanter l'intégralité du deuxième album pour bien montrer aussi que c'était un groupe éminemment féministe, en plus d'être anarchiste, etc. etc.
Okay.
Donc là, je vous propose d'écouter en fait, l'entrée en matière, hein, puisque c'est le premier titre du premier album, la première face. Ça s'appelle Mother Earth, et c'est adapté, je crois, d'un fait divers sordide.
Now that the sun hath bowed his light and bid the world good night, to the soft bed my body I dispose, but where shall my soul repose?
On Tuesday, June 16th, 1964, at 7:45 p.m, 7 months after the disappearance of John Paul Bryan, Keith Bennett, schoolboy, set out with his mother from his home, 29 Heston Street, wanted to be confused by the Hickory Line, and went to a different street, a mile and a half away. He spent the same time in Morton Street. Right.
Sur le manche disque 101.5 Radio G.
Oserais-je dire que ça te décrasse les oreilles?
Ah, oui, tu peux. Tu
Parce
peux
que
le
c'est
dire.
Le cas.
Tu peux le dire. Et puis voilà, petite édition originale et tout, qui sent bien la clope du punk qu'il avait acheté à l'époque. Et qu'on a pris soin, contre toute attente.
Oui, bah oui, parce que le poster est mm-hmm. magnifiquement conservé. Après, ça serait un peu. Vu que ça fait aussi pochette, c'est vrai que là, t'es pris un peu dans quelque chose. Est-ce que tu l'affiches? Est-ce que tu le gardes plié?
Ah bah oui.
C'est pas évident de trancher quand t'es un méga fan de Crass.
Ils sont tous comme ça. Il y a vraiment un travail graphique énorme de collage. Ouais, c'est vraiment très très bon.
Très très bon et très très beau. Ok. Mais on va rester dans le rock, mais beaucoup moins violent. Ouh là là! Beaucoup moins violent, mais on va rester dans le rock avec une éminence quand même du mouvement. Alors, il a été catalogué glam rock, notre ami Marc Bolan, puisque je vais vous passer un morceau de T-Rex, son groupe, son duo, son quatuor, enfin bon, bref, son bébé.
Par la bande, on peut les rejoindre parce que Crass, ça vient de The Kids Were the Crass, c'est un lyrics de Bowie, qui est un pote de Marc Bolan.
Et ben voilà, bam, bam. Et bim! Et voilà, je vous avais dit, inconsciemment, on fait des ponts. Donc très bien, très bien, très bien. Donc Marc Bolan arrive à sa place dans cette émission, avec donc cet album mythique de T-Rex, Electric Warrior, qui contient des tubes de folie comme Get It On. Je pense qu'il est le plus connu, mais qui ne s'appelle pas Get It On. Et il faut avoir l'album pour savoir que le vrai nom de ce titre, c'est Bang A Gong, et que Get It On est simplement mentionné entre parenthèses comme un sous-titre. Mais c'est tellement le refrain, c'est tellement la ritournelle du refrain que pour tout le monde maintenant, c'est devenu Get It On, ce morceau. Donc vous l'écouterez si vous voulez vous rappeler, si ça vous parle pas comme ça à première vue. Il y a aussi Cosmic Dancer, bien sûr.
Oui.
Personnellement, le morceau que j'ai qui m'a fait aimer T-Rex,
qui est dans Billy Elliot aussi, je crois, qui est un peu emblématique,
qui a été utilisé dans plein de trucs. Donc en fait, même sans connaître T-Rex, c'est un petit peu la porte d'entrée, parce qu'on l'entend ailleurs, on dit c'est génial, ça c'est quoi, et hop, c'est comme ça qu'on découvre ça. Donc Marc Bolan, grand musicien quand même, il faut le dire, grande figure de son époque aussi, des années 70, puisque on appelait il y avait un nom pour la frénésie de T-Rex, je crois, la T-Rextasy, en comparaison avec la Beatlesmania. Donc il y avait eu toute une espèce de culte autour de lui. Il avait cultivé en plus le look un petit peu androgyne et qui avait été un peu précurseur de toute l'esthétique glam rock à l'époque.
Oh oui,
donc c'est pour ça que tu mentionnais Bowie, bien sûr, parce qu'il en faisait partie. Et puis il meurt tragiquement d'un accident de voiture en 77, voiture conduite par sa compagne, puisque lui ne voulait pas passer le permis parce qu'il avait peur de mourir en voiture.
Ouais, quand même.
Comme quoi, mm-hmm. quand on a peur de mourir en voiture et qu'on s'assoit à la place du mort, parce que elle s'en est tirée avec une fracture à la mâchoire apparemment, et lui il est mort sur le coup. Donc voilà, triste histoire. En plus de ça, j'ai appris via Wikipédia, je cite mes sources,
gros boulot d'investigation
qu'il est mort un mois après Elvis Presley, et que donc c'est pas lui qui a fait les gros titres, il a été un peu éclipsé.
Un petit peu plus en Angleterre, peut-être, que c'était vraiment quand même une grosse idole.
Mais ça veut dire aussi que le King, un mois après son décès, il arrive à éclipser quand même.
C'est fort.
Une grande star qui vient de mourir. Donc on s'imagine le tremblement de terre que ça a dû être en 77. Moi j'ai un petit peu du mal à m'imaginer, mais enfin voilà, tout ça c'était un petit peu le contexte nécrologique.
La petite consolation quand même, c'est qu'il a eu le temps de voir tout l'hommage quasi permanent que lui rendaient les formations de punk qui s'inspiraient énormément du glam, même si on avait du mal à l'imaginer, mais oui, le punk est vraiment très inspiré du glam, et T-Rex faisait vraiment partie des références de beaucoup de groupes, et il a eu le temps de faire quelques émissions avec eux, de collaborer un petit peu. Il a eu le temps de revoir Bowie aussi, qui était lui parti du glam depuis bien longtemps, là où T-Rex, Mark Bolan, avait un peu de mal à se renouveler lui par contre, sur la fin de 70, c'était plus compliqué.
C'est ce qu'il était reproché, même au-delà du glam, même au niveau des morceaux, il y a quand même des récurrences dans ses riffs bluesy électriques.
Mais voilà, donc il a pu quand même voir avoir un avant-goût de cette postérité qui était la sienne, malheureusement, avant de disparaître tragiquement.
Voilà, en 77, malheureusement, c'est tous les destins de. Enfin, en même temps, c'est esthétiquement, avec du recul, on ne connaît pas, on se dit, c'est un destin de rockstar quand même. Ça rajoute un petit peu du romanesque, un peu dans ses carrières fantastiques de ces musiciens de génie.
Une étoile filante, quoi.
Voilà, une étoile filante, effectivement. Ça apporte, je pense, au caractère culte un peu de son personnage, quoi. Et je pense qu'il y a pire comme personnage que Mark Bolan. S'il pouvait inspirer d'autres musiciens d'aujourd'hui, ce serait avec plaisir. On va pas s'écouter un tube du morceau. On va suivre la tradition du manche 10, de faire plutôt découvrir des B-sides, C-sides, D-sides parfois. Et là, on va s'écouter le tout dernier album de l'album, le morceau de l'album. Je fais souvent ce lapsus, c'est bizarre. Le tout dernier morceau de cet album qui s'appelle Rip Off. Such a
T-Rex, une institution, j'adore.
Ouais, un petit morceau, on se disait tout à l'heure, peut-être un petit peu, avec un petit peu de violence dedans, donc il fait un peu la transition après, après Crass. Autant que faire se peut.
Oui, voilà, exactement. Eh bien, on va enchaîner maintenant sur un autre type de... Enfin, on reste dans le rock, mais c'est un, on va faire un autre type, on s'éloigne un petit peu du glam, avec une formation, en fait, qui... on appelle ça un groupe, mais c'est quasiment à la manière de Nine Inch Nails et de Trent Reznor. En fait, c'est un bonhomme qui est derrière la formation, quoi.
Comme T-Rex.
Voilà. Je veux parler de My Dad Is Dead. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de très, très indépendant. Hein. C'est une formation où il y a pas mal d'albums, mais qui sont vraiment, pour certains, très difficile à trouver. Ça a commencé sur des cassettes auto-éditées et petit à petit, ça s'est développé. Mais voilà, c'est pas évident. Et donc, je veux parler de Mark Edwards. Alors, Mark Edwards, il a une formation de batteur, je crois, à la base. Hein, il n'y a pas énormément d'infos sur lui. Mais sur cette formation My Dad Is Dead, qu'il démarre en 1985, il joue de tout, ou presque, et il compose tout. En fait, là, dans cet album, le sixième, qui s'appelle The Taller You Are, The Shorter You Get, à part un invité ou deux à la basse, sur ce double LP, c'est lui qui fait tout. Et d'ailleurs, c'est un monumental double LP. Hein. On ne peut pas s'empêcher de penser à Joy Division quand on l'écoute, et notamment par rapport au chant, vous verrez ça. Mais c'est aussi une grosse, grosse inspi pour tous les groupes de ce qu'on peut appeler la Neo Cold Wave, qui vont au début des années 2000 redynamiser un petit peu ce type de post-punk très sombre. Je pense à Interpol, je pense à Editors. On voit qu'il y a vraiment une filiation avec donc ce groupe, et particulièrement peut-être, hein, je vais découvrir la formation petit à petit, mais ce sixième album de 1989, on est dans le rock vraiment sombre, hein, c'est des paroles très sombres, c'est pas très très joyeux, et le groupe, enfin Mark Edwards va poursuivre cette formation My Dad Is Dead jusqu'en 2009, où avec il va clôturer cette aventure avec un album qui s'appelle A Nuclear Root. Donc on peut imaginer que ça va un petit peu mieux, notamment par rapport à ce titre-là, et puis après il est parti sur d'autres projets que je ne connais pas encore. Donc voilà, ça c'est vraiment ma grosse claque avec The Sound que je vous ai passé il y a 15 jours. C'est vraiment mes belles découvertes du moment. J'ai beaucoup hésité entre deux morceaux, à tel point que je pense que je vous passerai l'autre morceau la prochaine fois, et là on s'écoute The Big Picture.
Le manche disque.
Parfaitement, vous allez me dire, puisque après ce morceau de My Dad is Dead, on a fait un petit bond en arrière aux États-Unis, toujours pour un morceau du groupe The Real Kids. Alors, The Real Kids, c'est eux qui ont interprété donc She's Alright sur cet album, hein, qui est leur premier album. C'est un groupe américain qui a toujours revendiqué faire du pur rock'n'roll pour eux, mais même si avec ce premier album de 77, on entend quand même beaucoup le New York de l'époque, notamment les Ramones, les New York Dolls et compagnie, quoi. On est sur quand même un rock. Alors, c'est un critique de l'époque, hein, j'ai traduit ça, qui disait que c'est du no bullshit rock avec des bases à la Chuck Berry, ayant capitalisé sur la British Invasion et préfigurant le punk à venir. On est vraiment là-dedans. C'est un groupe de Boston formé en 72 qui va pas mal tourner avant donc de vous proposer ce She's Alright de 77.
Yes.
Voilà.
Et on va partir sur un son un peu plus bluesy.
Oui, voilà, histoire de petit à petit préparer la nuit, on va dire, hein, tranquillement, oui. Avec un morceau d'un album qui s'appelle Jamming with Edwards. Alors, Jamming with Edwards, c'est un des rares disques du label des Rolling Stone Records qui ne soit pas un disque des Rolling Stone Records. En fait, à la base, comme beaucoup de groupes qui ont du succès, ils forment un label avec pour objectif de publier des groupes qu'ils aiment, etc. Sauf qu'ils vont jamais ni ou avoir le temps ou le prendre, et finalement voilà, ça va rester un peu le label qui permettra la sortie des morceaux des Rolling Stone Records. Sauf que dans Jamming with Edwards, on en retrouve trois des Rolling Stones: Mick Jagger, Bill Wyman et Charlie Watts. En 1972, Keith Richards devait avoir piscine. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots, remarqué avec Brian Jones en disant ça, je m'en rends compte. C'est un peu mauvais. Il peut aquaponer, non poney tout court, on va dire poney. Et puis, c'est une grosse jam en fait, hein, puisque à ce trio infernal va se rajouter Ry Cooder. Alors, Ry Cooder, vous connaissez peut-être, c'est vraiment le spécialiste de tous les instruments à cordes de la planète. Le mec, il a voyagé dans tous les pays du monde. Il a collaboré notamment avec le Rolling Stone, mais pas que, hein. Il a fait des musiques de films, il a une carrière solo incroyable, et c'est un expert de tout ce qui est banjo, ukulélé, guitare, etc. C'est lui qui va notamment apprendre les open tuning à Keith Richards, le doigté de guitare qui va révolutionner le son de Keith Richards. Je pourrais pas vous en dire plus, j'y connais rien, mais c'est ce que j'ai lu dans son autobiographie.
Quelqu'un d'important, alors.
Ouais, quelqu'un de très important. Et
s'il a formé Keith Richards, c'est quelqu'un d'important.
Ouais, voilà, il a mené sa petite carrière tranquillou, mais c'est vraiment un grand Ry Cooder.
Et il est mort avant Keith Richards.
Non, il est toujours là. Il a sorti un album.
Il se tire la bourre alors.
Ouais, il a sorti un album solo il y a même pas si longtemps. Et puis il a joué avec des artistes africains hallucinants dans Talking Timbuktu, etc. Et puis on a Nicky Hopkins qui est un pianiste qui a quand même joué pour les Rolling Stones, les Who et les Kings. Donc c'est pas rien. Et je vous propose d'écouter le titre d'ouverture, The Boudoir Stomp.
Ouais, bon, on va s'écouter ça tout de suite, mais on va peut-être se dire au revoir avant, parce que je pense que le morceau il est un petit peu long et on va se quitter dessus.
Je te squeeze ton morceau.
Bah non, ce sera encore plus plaisant la prochaine fois.
Ouais, voilà, on l'ouvrira
avec éventuellement ou pas. Mais en tout cas, on va dire une bonne quinzaine à nos auditeurs.
Ouais.
On va se retrouver maintenant au mois d'octobre.
Déjà.
Hein, c'est ça, j'ai pas la date en tête, mais je crois. Si, oh,
oui, je pense, parce que là, on est quelque chose comme le 20, donc
oui, c'est
20
ça.
Plus 15.
Je vais
le
trouver, ça va être le 4.
Ouais, un truc du genre.
Le 4 octobre. Et puis, entre-temps, on fait un petit clin d'œil à la météo, parce qu'on aimerait bien qu'elle soit clémente pour l'évitation vendredi et samedi.
Oui.
Parce que c'est cette semaine et on y sera.
Ah bah
voilà.
Oui.
Donc on va peut-être ramener des LP, peut-être que le 4 octobre on va vous faire profiter de petits LP qu'on aura glané à l'évitation, comme on fait d'habitude. Hein. D'habitude, on vient toujours avec au moins un petit
souvenir,
une petite galette, un petit souvenir. Des fois dédicacé, pas toujours. Là, cette année, je pense que ça va être chaud parce que en extérieur, scène, machin, peu accessible. Et je pense interaction sociale limitée quand même. Donc voilà. Écoutez, on espère que tout va bien se dérouler avec le quai, le Shabada, tout ça qu'on salue, qu'on remercie pour leur ténacité après l'impossibilité de l'année dernière.
Ouais.
Vive la musique, vive les festivals, vive Angers. Voilà, il y aura peut-être beaucoup d'émissions sur Radio G 101.5 qui vous parleront de cet événement, auquel le Joker s'est associé aussi. Hein, donc voilà, c'est vraiment un truc qui cristallise beaucoup de trucs qu'on adore sur Angers. Donc on y sera avec plaisir. Et on vous dit donc au 4 octobre. Et donc on lance ce disque. Alors le morceau, rappelle-le, comment il s'appelle ?
The Boudoir Stomp. Petite pensée pour Charlie Watts, forcément.
Magnifique.
Is that sound alright? Should I take the echo?
5.